Phénomènes étranges et inexpliqués, histoires insolites, énigmes non résolues, mythes et complots.
Avec Christian Page, Christian.
Oui, Mathieu.
Tu es en conférence le 10 février prochain.
Oui, les énigmes de l'histoire. Ça me fascine, les énigmes de l'histoire, parce que dans l'ensemble des phénomènes étranges et mystérieux, c'est souvent des sujets sur lesquels on peut accrocher quelque chose. C'est-à-dire que l'événement, il est bien réel. Qui était l'homme au masque de fer? Quelle était la nature de la bête du Gévaudan? Qui était Jack l'Éventreur?
Oui, oui, oui.
Donc, tu vois, on a des événements qui sont bien réels, qui ont marqué l'histoire, mais il y a des zones d'ombre autour de ces histoires-là.
Et le fantôme de l'opéra.
Le fantôme de l'opéra est une signature littéraire de Gaston Leroux. Hein, parce que c'est vrai, c'est bien que tu t'amènes cette idée-là. Gaston Leroux commence son roman, Le fantôme de l'opéra, en disant « Le fantôme de l'opéra a bel et bien existé. Si vous allez à l'opéra de Paris, au premier balcon, frapper sur la colonne numéro 7, vous allez voir qu'elle sonne creux à hauteur d'homme. » Donc, je suis allé là-bas, je parlais avec les responsables de l'opéra. Ils me disaient « Si vous saviez, monsieur Page, le nombre de gens qui viennent, qui montre au balcon, qui cogne sur la colonne numéro 7, qui est une colonne
qui
de marbre.
Qui part déçu
parce qu'elle n'est pas vide à hauteur d'homme, comme le disait Leroux. Et c'est essentiellement une signature littéraire. Au début du siècle, il y avait cette mode en littérature de raconter un récit comme s'il était un événement réel. Et c'est ce qu'a fait Gaston Leroux dans Le fantôme de l'opéra, qui est une fiction du début à la fin.
Tu vois, précision faite. Donc, ça fait pas partie des énigmes.
Ça fait partie d'autres sujets. D'autres sujets. Mais enfin, c'est ça. Donc, c'est le samedi 10 février. Okay. Ça se tient au Centre Roussin. C'est à Pointe-aux-Trembles. Les gens qui voudraient avoir plus d'informations vont trouver ça sur mon site web, christianpage.ca, d'un seul mot.
Bon, parlons de nos éphémérides pour le mois de janvier. Est-ce qu'on liquide l'histoire de l'OVNI de la rue Cassegrain pour commencer?
Ben, commençons avec ça, si tu veux. Parce que c'est vrai que cette semaine, j'ai regardé et il y a beaucoup d'éphémérides pour le phénomène des ovnis. Ça va sûrement plaire à beaucoup d'auditeurs parce que c'est un sujet qui est toujours éminemment populaire. Donc, effectivement, si on regarde en janvier, là, je te ramène, on est en janvier 1977. On est dans la soirée, dans la nuit du 6 janvier 1977. On est sur la rue Cassegrain à Montréal. Et là, il y a une dame, Madame Florida Malbeuf, une dame de 58 ans qui souffre d'insomnie. Il est à peu près 1h30 du matin. Donc, elle est debout, elle est dans sa chambre, elle est assise dans un fauteuil, elle grille une cigarette et soudain, elle a l'impression que sa chambre s'illumine par des lumières clignotantes rouges. Au départ, elle a l'impression qu'il y a peut-être une voiture de police dans la rue. Par curiosité, elle tire le rideau et là, elle observe quelque chose d'hallucinant. Devant elle, on parle ici de maisons à logement, donc des semi-détachés ou des maisons duplex, à croix, des duplex. Et là, ce qu'elle voit pratiquement en face de chez elle, dans un duplex qui n'est pas habité à ce moment-là. Il est abandonné, il est en rénovation. Elle voit arriver au-dessus de ce duplex ce qu'elle va décrire comme une espèce d'huître géante. En fait, une huître qui fait peut-être une trentaine de pieds, mettons 7 mètres de diamètre, avec des lumières clignotantes. Et comme elle habite au rez-de-chaussée, à un moment donné, elle a l'impression que cette huître, qui ne fait pas de bruit, semble disparaître par la fenêtre du toit. Donc, à un moment donné, elle cesse de voir l'objet, mais elle voit au-dessus du toit une sorte de lumière rougeâtre. Elle suppose que l'objet s'est posé. Et là, alors qu'elle regarde, elle voit arriver sur le bord du toit deux personnages. Et je me rappelle, lorsque je lui parlais de ça, c'est une dame qui était... une dame peu éduquée là, qui essaie de raconter ça. Et elle me disait « J'avais l'impression que c'était comme deux escogriffes. » C'est l'expression qu'elle utilisait, des escogriffes. « C'est comme deux escogriffes qui arrivent sur le bord du toit. » Et là, elle les décrit comme relativement grands. Ils sont comme vêtus d'une combinaison blanchâtre. Elle est trop loin pour voir leurs traits. Elle a l'impression que c'est un costume très moulant avec une espèce de casque de bain. Mais elle ne voit pas de visage. Et quand je lui demandais comment ils se déplaçaient, ces personnages, elle me dit « Oh, ben comme les marionnettes à la TV. » On se rappelle, dans les années 60-70, c'est Siri, les sentinelles de l'être. De l'air, ben oui. Et là, on les regardait se déplacer. Ils bondissaient un peu. Elle avait l'impression qu'ils se déplaçaient de cette manière-là. Elle raconte que les deux personnages se tiennent sur le bord du toit, semblent discuter entre eux, regardent dans la rue. évidemment avec un langage excessivement limité, là, elle décrit tout ça. Et là, à un moment donné, les bonhommes s'éloignent. Elle voit à nouveau l'huître qui s'élève du toit et qui va se diriger vers la région nord de Montréal. Et elle le perd de vue. Elle est très effrayée par ce qu'elle a vu. C'est une femme qui est très limitée, là, on s'entend bien. Et le lendemain, lorsque son fils André arrive sur place, elle lui raconte l'histoire et André va monter sur le toit de la maison en question et à son grand étonnement, parce qu'on parle ici d'une température extérieure de moins 20 degrés, lorsqu'il arrive sur le toit de la maison où l'huître se serait posée, il y a un cercle d'à peu près 6 mètres de diamètre où la neige, on voit que la neige a fondu et a redurci. Donc quelque chose a fait fondre la neige. Et près du bord du toit, il va noter 4 empreintes qui ressemblent à être des empreintes de pas, mais plus petites que celles d'empreintes qu'auraient laissées des humains ou un bottillon. On parle d'empreintes de pieds légèrement discornues. C'est un peu étrange. Et bon, ben évidemment, les journaux vont couvrir cet événement-là. Ça va faire la une de plusieurs journaux. Un ovni sur la rue Casgrain. Il n'y aura pas vraiment d'enquête qui sera menée. On ne trouvera pas d'évidence en dehors des quelques évidences notées sur place.
Elle était la seule à avoir vu ça?
Le seul témoin à avoir vu cet événement.
Quand même pas plus, ce coin-là?
Oui, parce que les amateurs d'OVNI font des raccourcis. Parce que ce soir-là, par exemple, l'événement se passe vers 1h30 du matin. Vers 2h30 du matin, des gens qui attendaient l'autobus près du métro Rosemont disent avoir vu une lumière dans le ciel. Mais leur témoignage est arrivé par la suite.
Okay.
Et ce qu'ils décrivent, une heure après les événements, pourrait simplement être une météorite. Rien ne prouve que ce qu'a vu Mme Malbeuf et ce qu'ont vu les témoins du métro Rosemont soient liés entre eux. Et le lendemain, un contrôleur de Dorval va dire « J'ai vu une lumière dans le nord de Montréal à peu près vers 19h, le soir où Mme Malbeuf a vu son mystérieux OVNI. » Donc, on voit en fait des collages d'événements qui sont un peu disparates, qui sont assez éloignés en nombre d'heures par rapport à l'événement. Il faudrait croire, si tout ça est lié à un même objet, il faudrait croire que l'objet vu par Mme Malbeuf se soit garé quelque part et attendu quelques heures pour réapparaître au-dessus de la station de métro Rosemont, ou soit arrivé plus tôt dans la soirée pour être observé par ce contrôleur, qui n'était pas d'ailleurs un contrôleur, c'est un type qui était plutôt un employé sur le tarmac de l'aéroport. Donc, on a des événements étranges, principalement cette observation de Mme Malbeuf, qui ne sera jamais vraiment confirmée.
Toi, tu l'as enquêté? Et
je l'ai enquêté, c'est assez amusant parce que c'était ma première enquête, j'avais 14 ans, je découvre ça dans les journaux, je décide de m'impliquer là-dedans. Je suis allé sur le toit, il faisait effectivement très froid, j'ai vu cette marque où la neige avait fondu, j'ai parlé avec des gens localement. Bon, ça relevait, Madame Malbeuf avait pas, c'était pas la dame qui avait la meilleure crédibilité dans le quartier, là. Donc, on se moquait un peu. C'est une dame qui était un peu limitée. Et moi, ce qui m'agaçait beaucoup lorsque je discutais avec Madame Malbeuf, c'est que souvent, les réponses semblaient lui être soufflées par son fils André.
Ah, okay.
Elle disait, j'ai vu les bonhommes sur le toit. Et là, André revenait, son fils se tenait toujours près d'elle, disait, oui, mais maman, tu disais que les personnages étaient comme ci, comme ça. Donc, il la reprenait. Est-ce que c'était pour éviter sa mère qui était, comme je te dis, qui avait un langage excessivement limité, est-ce que c'était pour la reprendre, pour pas qu'elle s'embourbe dans des explications un petit peu loufoques? C'est difficile à dire, mais cette histoire-là m'a pas convaincu d'un atterrissage d'OVNI en plein cœur de Montréal.
Christian, on va faire une pause.
Oui.
On va parler de d'autres histoires d'OVNI dans un instant, celui de l'OVNI de l'île de la Trinité. 11h33, nos éphémérides du monde des mythes et complots. On est dans l'OVNI ces temps-ci.
Oui, cette semaine, c'est très OVNI, effectivement.
On parle de l'OVNI de l'île de la Trinité.
Voilà, une histoire qui est en fait un classique. Et je te rappelle un peu le contexte historique de cet événement-là. En 1957, parce que l'événement dont je te parle s'est produit le 16 janvier 1958, donc il y a 60 ans pratiquement jour pour jour. Mais cette histoire-là, pour se remettre un peu dans le contexte, en 1957, l'ONU avait décrété cette année-là que c'était l'année géodésique internationale. Donc, on a mis l'emphase sur la recherche des sciences de la Terre. Et comme beaucoup de projets scientifiques, c'est cette année-là d'ailleurs que les Soviétiques ont lancé le premier Spoutnik. C'était en octobre 1957. Ça s'inscrivait dans cet cette idée de l'année géodésique internationale. Et plusieurs de ces projets se sont échelonnés sur plusieurs mois, et c'est ce qui nous amène à notre événement du jour. Donc, le gouvernement brésilien avait mis de l'avant plusieurs programmes de recherche géologique, et l'un d'entre eux consistait à étudier une petite île. On étudiait à la fois la faune marine et la végétation sur un rocher. Hein, c'est vraiment une roche. Ça s'appelle l'île de la Trinité. Oubliez la Trinité Tobago.
C'est pas dans le même coin.
C'est vraiment un rocher qui est au large des côtes dans l'océan, le Pacifique Sud, l'Atlantique Sud, pardon, du côté, je te dirais que c'est à peu près à 1000 km de Rio,
hein,
pour nous situer. Et il n'y a rien là-dessus. C'est une île déserte, c'est un rocher. Donc, ce 16 janvier 1958, il y a un bateau du gouvernement brésilien qui mouille juste aux côtés de l'île. On y étudie, comme je l'ai mentionné, la faune océanique, de l'océan. Et à ce moment-là, il y a une sorte d'agitation sur le pont. Le navire compte à peu près 300 personnes, dont principalement des scientifiques. Et là, soudain, une agitation sur le pont avant. Les gens voient venir de l'est un objet métallique qui se dirige à grande vitesse vers l'île. On appelle l'un des photographes du bord, un type qui s'appelle Almiro Bana, qui va se retrouver à la proue du navire et il va sortir un petit appareil et va réussir à prendre 6 photographies de cet objet qui se dirige vers l'île. Et l'objet va décrire une espèce de demi-cercle au-dessus de l'île avant de s'éloigner vers le sud. Les témoins racontent que l'objet ressemblait à une planète Saturne, donc une espèce de sphère métallique entourée d'un anneau. Barona prend donc ses photographies et là, évidemment, dans l'excitation, on parle d'un appareil argentique, on le comprend bien, là,
oui,
avec une bobine, un film à l'intérieur. Donc, dans l'enthousiasme du moment, le capitaine du navire, l'almirante Saldana, demande « Est-ce que l'on peut développer la pellicule immédiatement sur le bateau? » On dit qu'on a les équipements nécessaires. Barona entre dans la chambre noire. Il n'y a pas réellement tous les équipements nécessaires. Il va remplacer notamment l'acide acétylique par du vinaigre ou des trucs comme ça pour développer la pellicule. Mais finalement, il réussit à tirer un ensemble de photos et sur les 6 photographies, les 6 clichés qu'il a pris, on peut voir l'objet sur 4 d'entre eux. On voit l'objet faiblement, mais on peut voir cet objet en forme de sphère entouré d'un disque autour. Les photographies de l'almirante Saldana continuent encore aujourd'hui, 60 ans après les événements, d'être discutées dans le milieu des ovnis. Certains ont accusé Barona d'avoir falsifié des photos en chambre noire, mais c'est faire fi des témoignages des quelques 300 passagers sur le navire qui ont vu l'objet filer vers l'île. Et ensuite, ces photographies n'ont jamais été expliquées parce que, bien sûr, par les lignes aérodynamiques de l'objet, ça ne ressemble absolument rien qu'on a connu au cours des années qui ont suivi. Donc, c'était pas un prototype, c'était pas un missile. On ignore tout à fait de quoi il s'agit. Et on sait aujourd'hui qu'en fouillant dans les archives du gouvernement brésilien, on voit que les autorités ont eu un intérêt énorme pour cette histoire. Barona, par exemple, a été ramené au Brésil. Il a été interrogé pendant 6 heures par les autorités. Les photographies ont circulé à l'intérieur dans des arcanes du gouvernement brésilien. Donc, on a accordé beaucoup d'intérêt à cette histoire et qui s'est produit il y a donc 60 ans, presque jour pour jour aujourd'hui.
On n'a pas d'explication plus que ça?
Pas d'explication. Donc, des photographies mystérieuses pour lesquelles on n'a pas trouvé d'explication.
Il nous reste 2-3 minutes. On n'aura peut-être pas le temps de faire tous les sujets, mais on va parler du Blue Book, entre autres.
Oui, ça, c'est peut-être très intéressant parce que on le sait, à partir de 1947, les Américains ont maintenu un intérêt pour la question des ovnis et ils l'ont maintenu, semble-t-il, jusqu'en 1970. On a appris au mois de décembre que ce n'était pas tout à fait vrai. Ils avaient à l'interne, entre 2007 et 2012, un petit programme sur les ovnis, mais officiellement à partir du 30 décembre 1947 jusqu'en janvier 1970, jusqu'au 30 janvier 1970, les Américains ont maintenu une espèce d'intérêt quasi soutenu, quasi ininterrompu sur la question des ovnis. Dernier programme en lice, 1952-1970, ils ont étudié 12 618 rapports sur les ovnis. 701 d'entre eux sont demeurés non identifiés. Et en janvier 1970, au moment de publier ses conclusions, l'armée américaine avait dit à ce moment-là, oui à la question des ovnis, plus de 701 cas demeurent non identifiés. Donc, est-ce qu'il y a des phénomènes aériens inexpliqués ou inexplicables? Oui, on le reconnaît. Néanmoins, dans un même souffle, ils avaient ajouté, rien ne prouve que les cas non identifiés soient des visites d'extraterrestres. On n'a rien trouvé là-dedans qui nous permet d'appuyer cette conclusion. Donc, oui aux ovnis. Quand quant aux extraterrestres, la question reste posée. Et c'est ce qui est assez amusant, c'est qu'à partir du dépôt du projet Blue Book en janvier 1970, l'armée américaine a toujours prétendu qu'elle ne s'intéressait plus à la question des ovnis. Lorsque les journalistes ou le public s'adressaient aux autorités, on les renvoyait aux archives nationales où les archives de Blue Book sont placées depuis le milieu des années 70. Et il a fallu une fuite dans le New York Times au mois de décembre dernier pour apprendre qu'un petit projet modeste, 22 millions sur presque 5 ans, mais quand même un projet existait entre 2007 et 2012 dans les enceintes du Pentagone pour continuer d'étudier la question des ovnis.
Et ça, tu m'as déjà expliqué ça, là, si on prend 30 secondes, le dernier projet, ça avait l'air plus d'un
retour d'ascenseur.
Un retour d'ascenseur pour un lobby. Lobbying.
Donc, un sénateur qui avait fait pression pour que ce projet-là soit mis en place. Ce sénateur avait des accointances avec un type qui s'appelle Robert Bigelow. Et c'est ce même Robert Bigelow qui dirige Bigelow Aerospace qui a été le bénéficiaire des 22 millions qu'a investi le gouvernement pour étudier la question des ovnis. Donc, un bon retour d'ascenseur, une bonne tape
exact.
Dans le dos.
On n'a pas l'exclusivité de ça ici au Québec.
Non,
voilà,
absolument pas.
Monsieur Page, merci beaucoup.
Ça m'a fait plaisir, Mathieu.
On se retrouve la semaine prochaine. Puis je rappelle, le 10 février, c'est au Centre Roussin, c'est ça?
Voilà.
À Pointe-aux-Trembles.
Énigme de l'histoire. Toutes les informations sur le christianpage.ca.
Merci, à la semaine prochaine.
Ça m'a fait plaisir.